La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Patrick Saporito. Je fais partie de l'église des responsables de l'église baptiste Toulouse Métropole. D'après une étude de 2017, les jeunes Français fument et boivent de plus en plus et de plus en plus tôt. Plus de 90% des jeunes de 17 ans disent avoir déjà expérimenté une boisson alcoolisée et 59% disent avoir été ivres. La moitié des 15-19 ans a déjà pris du cannabis. Et à l'âge de 16 ans, les jeunes Français sont actuellement les premiers consommateurs d'Europe. Ces chiffres montrent que nous sommes dans un véritable combat spirituel où il n'y a pas de neutralité concernant la jeunesse, les enfants. Si l'enfant n'est pas nourri avec la parole de Dieu dès son plus jeune âge, eh bien il sera exposé à une nourriture empoisonnée qui risque de le rendre malade spirituellement et moralement pour toute la vie. Et Dieu ne veut pas cela. Quelle est sa volonté pour les enfants? Eh bien, je vous invite à prendre sa parole. Je vais prendre le psaume 78, versets 1 à 8. Ce psaume 78 qui est un grand chant de l'histoire du peuple d'Israël et qui s'adresse aussi à nous. Je lis donc. Cantique d'Azaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Jusqu'ici notre lecture. Dieu veut être connu, lui et ses œuvres, de génération en génération. Quelle est sa stratégie pour y arriver? Eh bien, elle passe par sa chaîne de transmission. Ce que je vous propose de voir en trois points, eh bien, nous verrons premièrement le but de sa chaîne de transmission. Deuxièmement, nous verrons le maillon de sa chaîne de transmission. Et troisièmement, nous verrons ce qui fait la solidité de sa chaîne de transmission. Voyons premièrement, eh bien, le but de sa chaîne de transmission. Ce psaume commence par nous inviter à tendre l'oreille, verset 1. Dieu a quelque chose d'important à dire. À qui? Aux croyants, à son peuple. Mon peuple, écoute mes instructions. Toute l'Église est concernée et invitée à écouter, pas seulement les mamans, pas seulement les papas, pas seulement les moniteurs, monitrices. Quel est ce sujet si important? Est-ce nouveau? Non. Il s'agit d'écouter la sagesse des temps anciens, nous dit le texte. La sagesse qui prévalait dans les temps anciens prévaut encore aujourd'hui. Parce que Dieu est le même, même si notre société change, ses valeurs aussi, même si la nouvelle génération a ses propres codes, sa propre culture. Dieu nous dévoile sa volonté pour chaque nouvelle génération dans un triple but au verset 7, pour qu'il soit aussi le nôtre. Verset 7, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Jusqu'ici. Dieu veut être connu, lui et ses œuvres, de génération en génération, à commencer par la jeune génération qu'il veut protéger et qu'il nomme la génération future, verset 4 et verset 6. La génération future, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Ici, nous voyons le cœur de Dieu pour les enfants. Il veut que les enfants d'aujourd'hui fassent partie de son assemblée et le connaissent au plus tôt, pour qu'ils ne soient pas l'Église de demain, mais l'Église d'aujourd'hui. Le but de Dieu est de transmettre à la jeune génération qui il est et ce qu'il a fait. Le verset 4 le dit très clairement, je lis, « Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Jusqu'ici la lecture. Quand est-ce que Dieu a manifesté ses miracles, ses prodiges et sa puissance? Eh bien, lorsqu'il a libéré les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. On pense aux 10 plaies d'Égypte et à la mer fendue en deux. Il voulait d'abord susciter chez les Hébreux la louange pour ses hauts faits et pour sa délivrance miraculeuse, pour en faire son peuple. Aussi, Dieu s'est fait connaître à son peuple, non seulement par ses miracles, mais aussi par sa loi. Il a mis une loi en Israël, verset 5. Il s'agit de la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Remarquez que le psaume 78 mentionne de transmettre en premier les louanges de l'Éternel avant de transmettre la loi. Parce que ce n'est qu'après leur libération de l'esclavage que Dieu leur a donné les 10 commandements, et à nous aussi. C'est l'obéissance à cette loi qui devait distinguer les Hébreux des autres peuples, pour refléter qui est Dieu. Le deuxième but de Dieu pour les enfants au verset 7, eh bien, est qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Nous avons tous un problème, c'est que nous oublions facilement. Ici, nous sommes mis en garde contre l'ingratitude, le danger d'oublier ce que Dieu a fait, comme les Israélites ont oublié si facilement comment Dieu les avait délivrés miraculeusement des Égyptiens. Pour éviter l'oubli, eh bien voyons, deuxième point, quel est le maillon de la chaîne de transmission de Dieu. Quel est l'enjeu ici? Imaginez-vous une chaîne de transmission en mécanique qui casse à cause d'un maillon. Eh bien, la transmission ne se fait plus. De même, si une génération ne transmet pas le flambeau de l'Évangile, ce sont toutes les générations suivantes qui ne connaîtront pas l'Éternel. Et Dieu ne veut pas qu'il manque un maillon à la chaîne. C'est clair que ce n'est pas une fois devenu grand qu'il faut parler de Dieu aux enfants. Parce qu'une fois devenu grand, ça sera eux qui en parleront à leurs enfants. Ce que dit le verset 6, je lis, « Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. » Jusqu'ici le verset 6. À qui revient la responsabilité première de transmettre la parole de Dieu aux enfants? En d'autres termes, qui sont les maillons de cette chaîne? Réponse au verset 3, je lis, « Ce que nos pères nous ont redit. » Ça commence à la maison, dans la famille, avant l'Église. Et vous remarquerez plus précisément que le texte cite les pères. Il s'agit même d'un ordre qui leur est donné par le Seigneur. Verset 5, je lis, « Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. » Jusqu'ici, verset 5. Je vous recommande le film Courageous, si vous ne l'avez pas vu. L'histoire de 4 pères policiers chrétiens qui sont bien pris par le métier. Un des 4 a perdu sa fille lors d'un accident et regrette de n'avoir pas passé de temps avec elle de son vivant. Suite à cela, les 4 pères vont signer un engagement à ne pas négliger leur famille, car trop souvent aussi, des enfants tournent mal à cause de parents absents. Dans la société juive primitive, c'était surtout la mère qui était présente dans la vie de l'enfant, dès les premières années de sa vie. Instinct maternel oblige. Le père, lui, prend progressivement sa place d'enseignant au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ce pouvait être dès 5 ans. Des études ont montré que la personnalité de l'enfant est formée à 50% entre 3 et 4 ans. Il faut donc que l'enfant soit instruit dès son plus jeune âge. Plus on attend qu'il grandisse, plus le travail sera difficile et l'éducation prend du temps. Puisque la transmission commence dans la famille, eh bien, quelle est la place du catéchisme, de l'école du dimanche pour enseigner les enfants? Regardons plus précisément les versets 3 et 4. Je lis « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le cacherons point à leurs enfants. » Fin de citation. Le psalmiste ne dit pas « nos enfants », mais « leurs enfants ». Plus largement, il s'agit d'instruire tout le peuple, pas seulement ses propres enfants. Et c'est là qu'intervient l'école du dimanche de l'Église, qui est là pour compléter et aider le travail des parents, et pas pour le remplacer. Ne dites pas « je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas pour moi » ou « je suis un homme, je laisse ça aux femmes, aux mamans ». Non, toute l'Église est concernée. Au verset 4, nous avons cette exhortation de ne pas cacher la parole de Dieu aux enfants. Je lis « Nous ne le cacherons point à leurs enfants ». Fin de citation. Comment peut-on dissimuler la parole de Dieu aux enfants? Eh bien déjà, en vivant le contraire de ce qu'on dit. Les enfants nous observent. On n'enseigne pas seulement par ce qu'on dit, mais par ce qu'on est. L'enfant est un imitateur. Il a besoin de modèles pour se construire. La première Bible que l'enfant lira, c'est la vie de ses parents, même s'ils ne sont pas parfaits. Lorsque vous lisez votre Bible ou que vous priez devant vos enfants, eh bien vos enfants vous observent et vous les influencez en bien et ils s'en rappelleront toute leur vie. Et puis bien sûr, on peut dissimuler la parole de Dieu en la taisant tout simplement, en n'en parlant pas dans les familles, alors que c'est sa parole que nous voulons véhiculer dans la chaîne de transmission de Dieu pour ne pas l'oublier. Ce qui nous fait nous poser cette question, combien d'entre nous avons un moment biblique quotidien à la maison, conjoints et enfants réunis? Une enquête aux USA a révélé ceci. C'est une citation que je tire du livre « Lire, prier, chanter, chanter en famille » de Donald Whitney, page 9. 85% des parents ayant des enfants en dessous de 13 ans sont d'accord pour dire qu'ils sont responsables pour leurs propres enfants en ce qui concerne la religion et les questions spirituelles. Néanmoins, la vaste majorité des parents ne passent aucun temps dans une semaine typique à parler de la religion ou à l'étudier avec leurs enfants. La plupart des parents comptent sur l'église locale pour la formation spirituelle de leurs enfants. Fin de citation. Le psaume 78 fait le constat d'un échec. La transmission ordonnée par Dieu, déjà dès la sortie d'Égypte, ne s'est pas bien passée. Le verset 8 parle, je cite, « d'une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Fin de citation. Toute la suite de ce long psaume raconte comment Israël est resté rebelle, désobéissant à l'Éternel et ingrat envers lui, malgré sa délivrance, malgré tous les témoignages de son amour et les évidences de sa grâce et de sa bonté. Il s'agit là d'une énigme. Lorsqu'au verset 2, le psalmiste dit, je cite, qu'il publie la sagesse des temps anciens, fin de citation, le mot traduit par sagesse veut dire aussi énigme. Voilà de quelle énigme il s'agit. Les miracles visibles de Dieu pour se faire connaître aux Hébreux n'ont pas suffi à changer leur cœur. La joie, la louange de la délivrance n'ont pas duré. Ils ont échoué. Dieu leur avait fixé comme but qu'ils observent ses commandements. C'est la fin du verset 7. Mais ils lui ont désobéi. Pourquoi ? Reprenons attentivement le triple but de Dieu dans ce verset 7. Premièrement, qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Deuxièmement, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et troisièmement, qu'ils observent ses commandements. Ce qui est capital ici, c'est que l'obéissance vient en dernier dans ce que Dieu demande. C'est vrai que Dieu bénit l'obéissance. C'est la mise en pratique de sa parole, son application qui va faire grandir l'enfant et la gravera dans sa mémoire. Mais avant d'obéir, Dieu nous demande de croire en lui, qu'on mette en lui notre confiance. De même que la louange vient avant la promulgation de la loi, eh bien la foi doit venir avant l'obéissance. C'est plus facile d'obéir à quelqu'un quand on a compris qu'il nous aime, pour qu'on l'aime en retour. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on le connaisse. Avant tout le reste, avant qu'on fasse quoi que ce soit pour lui. Mais comment connaître Dieu? Comment susciter la foi et l'amour pour Dieu chez l'enfant aujourd'hui, qui vont lui donner envie de lui obéir, rendant ainsi la chaîne de transmission solide? Ce que je vous propose d'aborder maintenant, le troisième point, voyons ce qui fait la solidité de la chaîne de transmission. Qui dit énigme dit solution. Solution qui ne peut venir que de Dieu. Et cette solution pour ne pas que s'interrompe la chaîne de transmission, eh bien, elle se trouve à la fin du psaume 78, les versets 70 à 72. Je lis. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Fin de citation. Le roi David est mort, mais Dieu nous a suscité un berger plus grand que David et issu de sa postérité. Il s'agit de Jésus, fils de Dieu. La question se pose inévitablement. Croyons-nous qu'un enfant peut croire à salut en Jésus? Croyons-nous que l'évangile est à la portée des enfants? Et si oui, à partir de quel âge? Pour y répondre, je vous propose de remplacer cette question par celle-ci. À quel âge un enfant comprend-il qu'il est pécheur? Si nous avons enseigné les 10 commandements, la loi morale de Dieu à l'enfant, il comprendra très tôt qu'en désobéissant délibérément à ses parents, il désobéit à Dieu qui a donné ce 5e commandement « Honore ton père et ta mère » en Exode chapitre 20 verset 14. La loi morale de Dieu est bonne et toujours d'actualité parce qu'elle nous dit comment l'honorer et comment bien vivre en société les uns avec les autres. Mais en même temps, cette loi révèle un problème que nous avons tous, et pas seulement les Hébreux. Personne n'a eu 10 sur 10. Tout le monde a désobéi à Dieu, et ce, dès l'enfance. Et un seul péché suffit à nous séparer de Dieu, qui est saint, parce qu'il faut 10 sur 10 pour aller au ciel. Eh bien, dès lors qu'un enfant comprend qu'il a désobéi et qu'il mérite une punition, il peut comprendre que le seul qui a toujours eu 10 sur 10 et qui ne méritait pas d'être puni, Jésus, le Fils de Dieu, a accepté volontairement de se faire punir à sa place et à la nôtre en mourant sur une croix. Et Dieu a encore montré ses miracles, ses prodiges, sa toute-puissance, pour reprendre les termes du psaume, lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendant ainsi possible notre pardon. C'est pour nous que Jésus a obtenu 10 sur 10. Et si tu ne l'as pas encore fait, quel que soit ton âge, il te propose d'échanger le bulletin de notes de ta vie. Peut-être 1 sur 10, 3 sur 10, allez, 7 sur 10. Il te propose d'échanger le bulletin de notes de ta vie contre le sien, qui est de 10 sur 10. Comment ? Si tu as compris que tu es pécheur, demande-lui pardon de lui avoir désobéi et fais-lui confiance pour t'enlever ton péché en croyant en lui, de ce qu'il s'est donné pour toi à la croix et de ce qu'il est ressuscité. Voilà les vérités premières que l'enfant doit connaître. Nous ne lui enseignons pas une religion, mais une personne, Jésus-Christ, qu'il a aimé au point de donner sa vie pour lui. Nous pouvons vouloir de très bonnes choses pour nos enfants, qu'ils réussissent à l'école, qu'ils aient une bonne situation, qu'ils fondent une famille, qu'ils aient une belle maison. Mais en premier, voulons-nous pour eux le plus important et le plus précieux, qu'ils connaissent et aient Jésus dans leur vie, et ainsi ils connaîtront Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Fin de citation. Quelqu'un indique qu'un enfant sauvé, c'est toute une vie sauvée. Alors, pour assurer une solide transmission, pourquoi ne pas commencer un moment biblique régulier en famille à la maison, centré sur Jésus-Christ et sa parole ? Nous mangeons tous les jours pour fortifier notre corps, c'est vital. Peut-être même 3 fois par jour, avec le goûter. C'est tout aussi vital de nourrir notre âme et celle de nos familles par la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Pourquoi si peu de familles ont-elles ce moment à la maison ? La réponse qui vient en premier est qu'elles ne savent pas comment s'y prendre et ont besoin d'outils. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le principal outil, c'est notre Bible. Pas besoin d'être théologien. 5-10 minutes par jour suffisent pour faire quoi ? Eh bien, la réponse, elle est dans le titre de ce livre écrit par Donald Whitney à l'intention des familles. Je cite, « Lire, prier, chanter en famille. Lire la parole de Dieu, prier, chanter. » Les enfants aiment qu'on leur fasse la lecture. Il suffit de prendre un passage de la Bible, une histoire et de la leur lire de façon suivie en famille. Aussi, on peut prier et chanter un petit chant à table. Nous avons tout ce qu'il faut dans les psaumes. Il existe aussi des versets chantés qui se graveront pour toujours chez l'enfant et le rendront fort pour résister au mal, en faisant comme Jésus qui citait souvent l'Écriture. Pour terminer, voici une citation de ce livre, « Lire, prier, chanter », qui concerne de très jeunes enfants. Je cite « Même si votre enfant n'a que 15 mois et ne comprend pas ce que vous dites, vous pouvez être sûr qu'il est en train d'apprendre. Si ses pensées enfantines étaient traduites en paroles d'adultes, vous entendriez quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'on fait ici tous les soirs. Papa lit des choses que je ne comprends pas dans un grand livre. Puis, tout le monde ferme les yeux et parle. Après quoi, tout le monde chante. J'aime bien cela. Enfin, je ne sais pas ce qu'on fait, mais ça doit être important, puisqu'on le fait tous les soirs.
Pas nous. Alors tu t'es laissé punir pour le monde. pouvais effacer ce qui me séparait de toi. Pour ça tu es mort.